Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Voilà, vous pouvez me remercier, vous avez toutes ces musiques dans la tête jusqu'à la fin de la soirée, ou peut-être même pour deux ou trois jours, toutes ces musiques des années 80 qui nous enchantent et qui nous envoûtent et qui nous hantent aussi parce que c'est devenu un totem et peut-être qu'à l'époque, on ne pensait pas que ça allait devenir un truc aussi énorme, intergénérationnel. Regardez, Madonna qui arrive en concert à Paris. Deux dates à l'Accor Arena de Paris, 12 et 13 novembre. Des places prévendues en 2 heures. Et vous savez quoi? Ce sont surtout les jeunes qui ont acheté. Les jeunes de 15, 16, 17, 18 ans qui n'ont pas connu toutes ces années que moi j'ai connues, qu'Isabelle Morizet a connues aussi. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes notre très chère Isabelle Morizet ici à Europe 1. Vous avez connu une autre carrière dans les années 80 sous un autre nom que tout le monde sait. Et d'ailleurs, vous chantiez ceci par exemple.
Oh chérie, chérie, la musique de ma vie, c'est du soleil.
Voilà. Ça, c'était Karen Cheryl. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de cette époque-là, mais vous voyez, c'est ça qui est dément chez nous. C'est qu'on trouve que c'est génial. On trouve cette musique absolument incroyable. Elle est intergénérationnelle. Est-ce que vous comprenez, vous, que quand Michel Sardou réapparaît, il refait une tournée, il revient, c'est un totem. C'est un...
Vous savez quoi, Pierre? Je pense que c'est pas tant la musique des années 80, en fait, qu'on aime que... les années 80 en elles-mêmes qu'on idéalise, qu'on fantasme, parce que c'était des années de liberté totale avec un carburant absolument incroyable. La grande fête avant la glissade du politiquement correct dans les années 90 et 2000. Et puis, eh ben aujourd'hui, tout est sombre, oppressant. On a la Troisième Guerre mondiale peut-être aux portes de l'Europe.
Mais il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des contestations.
Il y a toujours eu des problèmes, mais on va dire que la mondialisation n'avait peut-être pas fait son œuvre comme aujourd'hui. Il y a eu les années 70 avec le lâcher prise, le disco, sa pluie de paillettes. Comme on aime bien que le balancier, vous savez, survole tout le spectre. C'est parti après, puisqu'on parle de musique, vers l'électro mais sombre avec Kraftwerk, avec la Cold Wave. Et puis les années 80 sont arrivées avec une espèce d'irruption comme ça. Madonna,
oui,
divinement,
oui,
délurée, saupoudrée de punk, mais pas vraiment punk, trash. Toutes les ados voulaient lui ressembler, simplement parce qu'elle affichait une rebellitude facile justement à capter.
Et alors justement, on va parler de cette rebellitude parce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter à propos de Madonna. Juste un truc, la disco, elle s'arrête net en genre 1979-80.
La disco, elle va mourir de sa belle mort, en fait. Elle va mourir de sa belle mort, on va dire, à la toute fin des années 70. Et puis, on va partir justement vers la Cold Wave pour essayer de gommer ce qui était peut-être l'excès de paillettes. L'excès, vous savez qu'elle est née allés dans ces boîtes américaines, gays, et qui sont devenues en fait prescriptives d'une certaine musique qui a détrôné par les DJ, qui a détrôné les radios qui, elles, lançaient les tubes. Donc, la disco, c'est vraiment né par le mouvement gay aux États-Unis, à New York, dans des boîtes très, très underground. Et puis, c'est devenu complètement planétaire, simplement parce que c'était le premier genre qui permettait à chacun de devenir la star dans la boîte de nuit.
Mais du coup, c'est la...
On repérait son image dans les miroirs.
C'est le film.
On dansait
c'est
pour
Saturday
soi.
Night Fever. C'est la,
voilà,
la
c'est exactement ça. Mais Saturday Night Fever, c'est presque... Ça annonce déjà la fin de l'époque.
Alors que c'est l'histoire justement d'un jeune des quartiers qui va danser tous les soirs.
Qui va danser
il
tous
est,
les soirs.
Il est meilleur que tous les autres. Tout le monde le regarde. Et il devient un héros.
Voilà. Et avec la disco, en fait, on danse plus en couple. On danse pour soi. Chacun veut devenir une star. Et ça nous ramène justement à Madonna, dont je sais vous allez nous parler, qui va être à l'Accor Arena les 12 et 13 novembre et qui avait une ambition, qui avait un carburant, qui avait du jus, qui avait cette gouaille et cette allure. Enfin, elle était totalement délurée et libre. Et oui, j'ai une petite anecdote
On va quand même accueillir notre chère Stéphanie Loire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on parle et Stéphanie est là.
Bonsoir,
et c'est
Isabelle.
Quand même notre spécialiste musique ici à Europe 1. Les années 80, pour vous...
J'ai d'ailleurs un doctorat en musique, je le précise.
Je sais. Les années 80, un totem qu'on n'avait pas suspecté. Quel est votre avis là-dessus?
Quel est mon avis là-dessus? Bah, disons qu'après, je trouve que c'est évidemment éminemment générationnel, le rapport qu'on a à la musique. La musique des années 80, moi, je danse encore au-dessus aujourd'hui.
Mais nous tous.
Pour les soirées entre amis, les mariages, et j'ai grandi avec cette musique-là. Je pense aussi que la musique, on se retourne toujours, on a toujours une forme de nostalgie pour une époque. Et celle-ci, comme le disait Isabelle à l'instant, elle incarnait une forme d'insouciance qui, aujourd'hui, est certes moins présente. En revanche, le disco est vraiment de retour aujourd'hui, c'est la grosse tendance dans la musique.
Mais alors justement, quand Madonna arrive, et on va en parler de Madonna, parce qu'Isabelle a quelques anecdotes croustillantes à propos
de Madonna. Ah oui, je voulais préciser, au sujet de Madonna, vous parlez de deux dates, il y a eu tellement de places vendues qu'elle en a rajouté une troisième.
Le 19 novembre.
Exactement.
Voilà. 19 novembre, prévente le jeudi 26 janvier à 10h. Pour les amateurs... Faudra aller vite.
Attendez, mais elle sera comment à 10h du matin, Madonna?
Non,
ce sera les...
C'est
ce
les préventes.
À 10h, elle sera au lit
À 10h le 26 janvier, on a le droit de. Voilà. Alors, vous l'avez vu, Madonna, vous avez même dansé, elle a dansé à côté de vous.
Non, mais c'est pour. Écoutez, c'était complètement anecdotique, c'est un gag, mais pourtant, c'est vrai. En fait, c'est. Voilà, l'époque où elle vivait entre la Belgique et Paris, à l'époque de Patrick Hernandez, je devais faire une émission de télé en live, en prime, un de mes danseurs se foulent une cheville. Et donc, mon producteur de l'époque, un Berry Bach, qui était très ami avec le producteur de Patrick Hernandez, Jean Van Loo, lui dit « T'as pas une idée, vite comme ça, au déboté, c'est le cas de le dire. » Et Jean Van Loo lui dit « Écoute, il y a une petite américaine qui est... incroyablement tonique, elle va apprendre très très vite la chorégraphie, tu vas voir, elle va faire l'affaire. » Je me retrouve à la maison de la radio, 3 heures avant le live, donc en train d'apprendre à Madonna, qui n'a pas quitté son chewing-gum, d'apprendre la chorégraphie de « Show me your man enough ». Et je me disais en l'observant, mais elle existe si fort. Elle envoie de telles ondes. Je devinais que l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là.
Your Man Enough, c'est votre chanson.
Oui, c'était ma chanson. Je devenais spectatrice de ce qu'elle m'offrait en répétant le titre. Je savais qu'elle était promise à un sublime avenir. Je n'imaginais pas que ce serait en fait dans les années 80, elle et Michael Jackson, la mondialisation faisant son effet, sont devenues les vraies premières stars planétaires.
Oui, et alors, mais est-ce qu'on met Madonna et Michael Jackson à part de tous ces titres qu'on a entendus là en préambule dans mon petit medley, ou est-ce qu'ils rentrent quand même dans cette musique des années 80 qui devient un totem, Stéphanie Loire?
Il y a quand même plusieurs catégories, plusieurs gammes de couleurs dans le medley que vous avez joué. Madonna, Michael Jackson, c'est, on va dire que c'est le roi et la reine. Au milieu de ce medley, je pense à Partenaire Particulier. Partenaire Particulier, c'était la New Wave à la française. Ils ont eu ce tube gigantesque et après, ils n'ont pas eu la carrière de Madonna ou de Michael Jackson. Donc, il y a à boire et à manger dans ce que vous nous avez proposé.
Mais c'est ça qui est dément, non ? C'est qu'il y a à boire et à manger, mais ça reste dans la tête. Parce que, est-ce que c'est générationnel ? Est-ce que c'est parce que moi j'ai 48 ans et que du coup j'ai traversé ces années-là et je me souviens de Partenaires Particuliers et pas forcément d'une chanson des années 60. C'est intuitu personnel. Comment ça marche, Isabelle ?
Il y a déjà l'efficacité de la ligne mélodique, c'est certain.
Ah. Ça, c'est sûr.
N'est-ce pas, Stéphanie ?
Bien sûr. Non, ça, c'est une certitude. Après aussi, il y a une vraie tendance aujourd'hui aux années 80, c'est-à-dire que ça s'exprime dans la musique, ça s'exprime aussi dans la mode. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans s'habillent comme on s'habillait dans les années 80. C'est le retour du crop top, c'est le retour des épaulettes, des jeans taille haute. Ça correspond à une esthétique aussi.
Et il faut avoir du culot et de l'audace pour créer, effectivement. Aujourd'hui, c'est peut-être plus complexe. Mais alors, la vraie question, j'ai envie de poser une question qui n'est pas politiquement correcte.
Allez-y.
Je tente, Pierre. La vraie question, en fait, c'est est-ce qu'une star de la pop a le droit de vieillir ? C'est-à-dire, elle a 64 ans, Madonna. Est-ce qu'elle a le droit d'utiliser encore les codes de provocation qui étaient les siens donc, quand elle avait 22, 25 ans ? Est-ce que l'hypersexualisation du corps peut être encore son mode de communication à 80 ans ? Parce que si on prend Mick Jagger, j'ai regardé, j'ai appris qu'il allait avoir 80 ans, en juillet prochain. Il continue de s'agiter sur scène tel un fantasme sexuel. Mais Madonna, elle va beaucoup plus loin, elle, parce qu'elle nous donne à voir.
Oui,
alors, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ce que Madonna nous donne à voir aujourd'hui ?
Je trouve que c'est un débat qui est très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez prendre le créneau pour aller jusqu'à 22h, Pierre, on pourrait développer le sujet. Mais moi, je trouve qu'on reproche à Madonna justement son hypersexualisation, sa liberté qui persiste encore aujourd'hui. Madonna, elle a construit sa carrière sur cette image provocatrice. Elle incarnait une femme qui assumait sa sexualité et son corps. Elle continue à le faire aujourd'hui, sauf qu'en effet, à 64 ans, ça dérange de voir une femme de 64 ans qui fait ça. Et moi, je la respecte pour ça, Madonna. Et je trouve qu'une icône de la pop comme elle, elle a le droit de vieillir. Et pour autant, elle peut continuer à porter des bodys et avoir des danseurs à demi nus et prendre des poses suggestives.
Elle a le droit quand même d'avoir des places qui sont vendues. Alors, il y a quelques places à 45 euros, c'est le minimum. Ensuite,
mais
il y a 84.
À 1000 euros.
1000, alors, je sais, 1046 euros. Ça, c'est
le pack
VIP. Hein. Mais ouais. Est-ce que c'est décent de proposer des places ? Parce qu'elle pourrait dire c'est 10 000, il y en a qui iraient. C'est terrible à dire, mais il y a quelques très fortunés et très privilégiés qui pourraient y aller. Mais
les réactions,
voilà, on les a recueillies avec les équipes d'Europe Soir. Je suis tombé dans les pommes, envie de me foutre en l'air. Le prix des places, c'est pour réanimer ma grand-mère. Certains vont devoir vendre leurs deux reins. Elle a compris ce que c'était que l'inflation, etc., etc., etc. Enfin, c'est quand même. Les gens sont un peu déçus, voilà.
Mais les places sont parties. Et elle rajoute une date. Voilà. C'est ce qui est fou. Et après, les Français, on a tendance à être capable de dépenser beaucoup d'argent pour aller voir des artistes internationaux. Et à le faire moins pour les artistes français.
Alors, il y a quand même par exemple, Stéphanie, qui est une grande spécialiste ici sur Europe 1 de la musique,
oui,
Dua Lipa, qui fait partie des héritières de Madonna, les places en concert, ça va jusqu'à combien à peu près ?
Dua Lipa, sur des places en carré VIP, on est dans les 180 euros, voire même 280 aussi, tout dépend
on
de la qualité.
À 1000, ouais.
On est pas, mais 1000 euros, attention, c'est un pack VIP avec un accueil, avec du champagne, avec des goodies exceptionnels, numérotés.
Oui.
On vient vous chercher, on vous fait un massage.
On a un droit à un bisou de Madonna, en fait, c'est ça ?
Peut-être qu'on a le droit à sa petite culotte à la fin du concert.
ça restera, ça aussi, hein, cette image. Hein.
Oh, wow.
Ça restera, cette image.
On vient voir la légende. Mais la légende, aujourd'hui, elle a de nombreuses héritières. Hein. Il y a Rosalia, on vient de citer Dua Lipa, mais il y a eu Lady Gaga. La première, ce fut Britney Spears. Voilà, la première à Dubaï. Il y a Cardi B.
Et
le problème, c'est qu'elles ont le temps.
En ce moment.
Elles ont le temps pour elles, c'est ça.
Et puis, il y a eu des artistes qui sont arrivés dans les années 80 et qui, on va écouter mon cher Benoît Levionnois qui réalise cette émission, on va écouter France Gall, Ella Ella, c'est en 1987. France Gall, elle n'a pas commencé sa carrière dans les années 80 et pourtant elle arrive en 1987 avec ça.
Ella, Ella, Ella.
Ça, c'est un tube qui reste dans la tête, que connaissent beaucoup de générations.
Bon, c'est déjà le talent de Berger.
Non, mais bien sûr. Ah, donc, en fait, c'est le talent de Berger dans les années 80 et pas avant, alors qu'elle a eu des chansons écrites par Gainsbourg et par d'autres compositeurs aussi. Donc,
Mais la Toussaint 80, c'est l'orchestration des années 80. Et puis, elle était la muse absolue de Berger, qui a complètement redessiné. En fait, sa vraie carrière commence avec Berger, parce que bon, les sucettes à Lani, ça nous fait sourire, mais c'est très anecdotique.
C'est l'Eurovision dans les années 60.
Voilà, enfin, ça. Mais en fait, sa véritable carrière, c'est Berger qui la façonne. Voilà.
Et donc c'est Stéphanie, là-dessus.
Bah, là-dessus, oui, évidemment. Enfin, Michel Berger, France Gall, c'est un duo qui fonctionne et qui cartonne dès le début de l'aventure, dès leur rencontre. Mais c'est vraiment une rencontre. Et en effet, Michel Berger a taillé des textes et des compositions pour France Gall qui font que.
Ça reste sa signature.
Elle est inoubliable, France
Gall. Quand on entend la groupie du pianiste et tout le reste,
oui,
c'est un peu dans le même acabit.
Stéphanie, de dire que c'est pas seulement la musique, là, ce sont les textes. Ouais. Parce que Cézanne peint. Bon, il y a effectivement une richesse, une variété de thèmes qui est absolument formidable. Et ça, c'était tous les questionnements de Berger.
Autre exemple. Eurythmics. Annie Lennox et son comparse.
Vous avez dansé en boîte là-dessus, Pierre, c'est sûr.
Non mais, vous rendez compte, ça arrive en 1983, ça sort de nulle part. Hein, et c'est encore aujourd'hui un totem.
Ça n'a pas vieilli, voilà. Sur le plan de l'orchestration.
Et même aujourd'hui, la musique électro s'inspire de Eurythmics, de toute la New Wave, de toute cette tendance de l'époque qui continue de fournir des samples pour les artistes électro aujourd'hui. Je pense à Justice, je pense à Breakbot. Ça reste une source d'inspiration inépuisable.
Alors, autre exemple. Là, c'est un contre-exemple. Voilà un artiste anglais qui a fait de la musique qui coule dans ses veines depuis qu'il est tout petit. On sait qu'il a reçu son premier piano quand il avait, je crois, 9-10 ans. Il écrit des chansons absolument incroyables au tout début des années 70.
Il est de toutes les époques.
Il est de toutes les époques, mais ça, I'm Still Standing 1983, c'est dément, c'est tellement 80. Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie Loire, pour Elton John à cette époque-là?
À cette époque-là, bah, c'est un raz-de-marée. Il mélange justement toutes les influences musicales. D'ailleurs, Elton John, il y a de la pop, il y a du disco. Et il est encore là aujourd'hui, il est très malin.
Mais
aujourd'hui,
oui.
Dua Lipa, c'est la nouvelle Madonna, on va dire. Oui. Et Dua Lipa cartonne. Donc, il fait un duo avec Dua Lipa. Et cet été, c'est le tube de l'été. On écoute Elton John et les jeunes écoutent Elton John encore aujourd'hui. Et découvrent, dans ce titre qu'il partage avec Dua Lipa, quatre de ses meilleurs titres qu'il a compilés. Il a aussi ce sens, cette capacité à rester dans l'air du temps et à s'associer aux artistes qui font l'air du temps.
Alors, puis-je poser une question un peu cruelle? Pourquoi Madonna n'a-t-elle pas de tube depuis 20 ans maintenant?
Est-ce que c'est vraiment vrai, ça?
Bah, c'est vrai qu'un peu le dernier gros tube de Madonna, c'est Hung Up, et ça commence à dater.
Ouais, qui a été d'ailleurs une reprise d'une certaine manière d'un tube d'ABBA, si je me souviens bien.
Exactement, avec un sample d'ABBA.
C'est le sample de Gimme, Gimme, Gimme 1979.
Donc Isabelle, je suis d'accord, moi aussi je m'interroge, je propose qu'on aille au concert et qu'on aille demander à la sortie du concert.
Et on refait une émission après avec Pierre.
Bah oui,
ouais, bah
oui.
Je suis d'accord.
Vous avez rencontré Madonna aussi dans une autre circonstance? Je crois que c'était au Cap d'Antibes, non, c'est ça?
Oui, alors ça c'était absolument incroyable, un déjeuner un peu fou avec tous les producteurs les plus importants de la planète à l'époque. Elle n'avait pas encore enregistré son premier album. On était dans une grande villa qui surmontait donc comme ça la mer. Et elle était en bout de table. Soudain, elle se lève à la fin du déjeuner. Il y avait une piscine. Il faisait beau ce jour-là. Une piscine avec un grand plongeoir. Tout habillée, elle y va. Elle prend son élan sur la pointe des pieds. Elle avait jeté ses chaussures. Elle prend son élan. Mmh. Et soudain, elle plonge. Elle traverse. Elle crawl. Elle sort dégoulinante d'eau royale, sublime, impériale. Tout le monde s'arrête. La tasse de café à la main. Regarde cet inconnu en se disant, mais Que se passe-t-il ? Elle vient se rasseoir. Naïade, magnifique. Et bien évidemment, après, tout le monde était autour d'elle.
Mais ça, c'est, on a l'impression de... Ça pourrait être une scène dans Who's That Girl, le film qu'elle on tourne en 1987.
Oui, le scénariste n'aurait pas osé aller jusque-là. Mais Madonna n'avait peur de rien.
Elle a posé les bases de la provocation. Et mais en plus, il y avait quelque chose de très nouveau dans sa manière d'être provocante. Aujourd'hui, on le met en scène, on le poste sur les réseaux sociaux. Là, ce que vous racontez, elle l'a fait. Il n'y a pas d'images qui sont là pour attester de ça.
Stéphanie, est-ce que vous diriez que Lady Gaga, ensuite, a été dans le prolongement pour la provocation ou ce n'était pas fait de la
Bien
même
sûr.
Façon
Bien sûr, et d'ailleurs Lady Gaga assume parfaitement cette filiation, cette inspiration avec Madonna. Bah, disons que Lady Gaga, elle est arrivée en se servant des médias quand elle arrive pour je ne sais plus quel événement avec une robe en viande.
Voilà.
C'était au Metropolitan Museum, je crois, à New York, non ?
Ouais, je crois.
Pour une expo ou pour quelque chose comme ça ? Non, c'était peut-être une charité.
Peut-être pour le gala du Met.
C'est ça, voilà, le gala du Met.
Peut-être pour le gala du
Met. Merci beaucoup, Isabelle.
Elle se sert des codes de la provoque, elle se sert de la presse, et du jour au lendemain, on ne parle plus que de ça. Bon, et bien sûr, derrière, il y a du talent, c'est pas simplement...
Il y a du talent, parce que quand on écoute l'album qu'elle a fait avec Tony Bennett, qui était le concurrent direct de Sinatra, c'est simplement sublime.
Elle est capable de chanter, elle va sur tous les terrains.
Voilà. Tiens, alors dans les années 80, il y avait aussi beaucoup de tendresse. Saxophone là.
Est-ce que vous êtes
c'est
pour
toujours
la réhabilitation
non,
des slows?
Non, mais on est.
Est-ce que vous êtes
heureusement qu'on est à la radio parce
boîte.
Que personne ne nous voit. C'est quand même oui.
Est-ce que vous êtes pour le retour des slows en boîte? Est-ce que vous militez pour ça?
Non, pas vraiment, parce que je crois pas que ce soit ni le lieu ni l'endroit, comme dirait l'autre. Mais dites-moi, c'est quand même incroyable, c'est slow. Est-ce que dans les années 80, il n'y a pas eu des slows comme ça absolument mortels qui étaient meilleurs que les autres?
Il y avait, alors, les balades, on a encore de belles balades aujourd'hui. Hein, et puis la mélancolie, on sait bien s'en servir aujourd'hui parce qu'on en produit pas
mais
mal.
Ça se perd quand même. Hein.
Bah, disons que le saxo se perd. Le saxo tel qu'il est utilisé dans Careless Whisper se
Kenny
perd.
Kenny G sort de ce corps.
Le brushing se perd tel que le portait George Michael à l'époque aussi.
Ça, j'en vois de temps en temps.
La coupe mulet s'est perdue. Ça, c'est une bonne chose.
Ça, c'est Europe. On aurait pu passer de Final Countdown aussi avec. Pour la coupe
non,
mulet.
Mais ouais. En revanche, c'est vrai qu'il y avait une vraie tendance autour de la balade, mais parce qu'aussi, je pense que, parce que je faisais une blague sur l'histoire des slows, mais le fait qu'en boîte de nuit, on dansait des slows faisait que les artistes produisaient plus de balades aussi. Bon, aujourd'hui, on a quand même Adèle qui nous fait un album entier de balades suite à son divorce pour raconter ses peines de cœur.
Mais ça s'appelle des balades, ça s'appelle plus des slow, alors que dans les années 80, on assumait, quoi.
Ouais, ça reste de la sémantique.
qu'est-ce qu'on va écouter ? Bah tiens, on va écouter ce groupe suédois qui, en 1985, arrive complètement par hasard. Ça s'appelle Take On Me. Un clip totalement dingue, hein, Stéphanie Loire, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ah, mais moi, ce clip m'a marqué vraiment. Quand je découvre ce clip qui passait en boucle à l'époque sur d'ailleurs MTV, qui était la chaîne des clips, on y voyait
ces mélanges. J'ai connu ça chez Marc Toesca en 1984 sur Canal, le Top 50. Hein.
ce clip qui mêlait l'animation, les scènes filmées où une jeune fille tombait amoureuse d'un personnage de BD, plongeait dans la BD dessinée au crayon, c'était absolument fabuleux. Je crois d'ailleurs que ce clip a contribué aussi au succès international de ce titre de AA, ce groupe norvégien qui est devenu...
Norvégien et pas suédois. Ouh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Merci beaucoup, Stéphanie Loire, heureusement que vous êtes là. Merci à Isabelle Morizet pour ce moment génial avec vous. Vous revenez quand vous voulez dans...
À très bientôt,
dans
Pierre.
Europe Soir. Dans un instant, c'est le sport. Lionel Rousseau.
Et on connaît la musique, nous aussi, avec les sportifs du hand et du foot au programme, mon cher Pierre de Villeneuve, à partir de 20h. La Coupe de France, bien sûr, tous les résultats, les analyses en direct avec nos invités, Nabil Djellit, Laurent Fournier, Emmanuel Baranguet. On évoquera aussi le dernier match de cette journée qui va opposer l'équipe de Lens à l'équipe de Brest. Ça se déroulera en Bretagne. Le foot à l'étranger, bien sûr, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne au programme. Mais à partir de 21h, nous suivrons également le match de l'équipe de France de handball, la championnat du monde de hand qui se déroule en Pologne. La France joue contre l'Espagne. On suivra cette rencontre assez largement avec notre envoyé spécial Axel May. À tout à l'heure.
Très bonne soirée, Lionel Rousseau.